la base navale de Papeete a vécu une prise de commandement historique.
C'était ce matin, la contre-amirale Anne Culler a reconnu le premier maître Florence Petit comme nouveau commandant du remorqueur Manini. Florence Petit est la première femme sous-officier de la Marine nationale à prendre le commandement d'un bâtiment de la Royale.
Et pour parler de la place de la femme dans la Marine et de son bilan au terme de son séjour en Polynésie française, Anne Culler est notre invitée.
Anne Culler, bonjour. Vous êtes jusqu'au 11 août, commandant supérieur des forces armées en Polynésie française, commandant de la zone maritime du Pacifique, commandant de la zone maritime de Polynésie française, commandant du centre d'expérimentation du Pacifique et commandant de la base de défense en Polynésie française. Ça fait beaucoup pour une seule personne. Vous aussi, vous avez été précurseur en étant la deuxième femme devenue contre-amiral et la première à occuper le poste de comme sup sur le territoire. Ma première question concernera donc la place de la femme dans les armées. Elle a beaucoup évolué ces dernières années, on en est où ?
À la place de la femme dans les armées actuellement, globalement c'est 15%. Donc c'est déjà beaucoup et nous sommes en France une des armées, la deuxième armée la plus féminisée au monde après les États-Unis.
Alors comment se fait-il qu'il ait fallu attendre 2014 pour qu'une femme officier marinier accède au commandement d'un bâtiment ?
C'est une évolution un petit peu logique et normale. Vous savez, les postes d'officier marinier qui sont commandants de bateau, c'est extrêmement technique. Et donc, comme pour les femmes commandantes de bateau, il a fallu attendre une progression normale, que les femmes progressent dans ces grades.
Alors, vous êtes en poste depuis 2 ans et encore pour quelques jours. Que retiendrez-vous de votre séjour polynésien ?
Alors, je retiendrai 2 choses. D'abord, dans le domaine professionnel, ensuite dans le domaine de ma vie en Polynésie. Dans le domaine professionnel, beaucoup de changements à la suite de mon prédécesseur, dans le domaine des restructurations, des diminutions d'effectifs.
On en reparlera, effectivement.
Qui vont se poursuivre. Et puis également beaucoup de travaux dans le domaine de l'international, en essayant de replacer un petit peu la France vis-à-vis de nos partenaires dans la zone. Beaucoup de travail également dans le domaine du nucléaire en tant que commandant du CEP.
Et ça, on va en parler tout de suite justement, puisque dans vos responsabilités, vous avez la gestion des anciens sites nucléaires. Un dossier sensible, vous le disiez le jour de votre prise de commandement, et vous avez pu le constater lors de votre dernier déplacement à Mololoa, c'était en février dernier. Les réactions ont été immédiates et vos propos ont déclenché une levée de boucliers.
Effectivement, comme vous le dites, c'est sensible, c'est complexe, c'est douloureux, c'est toutes ces choses à la fois. Donc moi, ce que je peux dire après cette levée de bouclier, comme vous le qualifiez, je dirais simplement que je regrette que mes propos aient pu choquer.
Vous avez toujours affirmé avec conviction la transparence de l'État sur ce dossier, mais ce n'est qu'en 2011 que Marcel Julien de la Gravière, le délégué au ministre de la Défense, expliquait que la France n'avait jamais vendu des essais propres. Vous comprenez la défiance des associations et plus largement de la population avec un discours qui a changé au fil des ans?
Oui, bien sûr. Je comprends complètement, sans partager forcément, parce qu'évidemment j'ai des éléments qui me permettent d'accéder à cette compréhension, mais oui, je comprends. Je comprends qu'il y ait eu des discours antagonistes. Et je pense d'ailleurs que la future création d'une commission d'information qui vient d'être décidée suite à la dernière visite du délégué à la Sûreté nucléaire de défense, donc elle vient d'être inscrite enfin dans le Code de la Défense et le Code de l'Environnement. Donc cette commission d'information qui devrait voir le jour normalement en fin d'année, on l'espère, devrait mettre autour d'une même table les associations, les citoyens, l'État, le pays, enfin toutes les personnes qui sont intéressées par ce domaine du nucléaire.
Vous pensez que le dialogue va pouvoir reprendre, parce que là on le sent assez rompu, c'est-à-dire que les associations restent assez sur leur base, on va dire, et chacun reste un petit peu dans son coin. Vous pensez que ça va aider à la reprise du dialogue ?
Il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas parler de dialogue avec des lettres ouvertes et puis des gentillesses qu'on se jette à la tête au travers des médias, donc il n'y a pas de dialogue. Donc je pense que cette commission d'information, oui, devrait résulter en un dialogue, enfin apaisé, concret, réaliste, pragmatique et rationnel. Surtout rationnel, parce que c'est ce qui manque dans ce débat, c'est la rationalité.
Le système de surveillance des risques géologiques liés à ces essais nucléaires est en cours de travaux. On en est où actuellement, sans être trop technique ?
Alors on est en train de monter en puissance sur ce chantier qui va véritablement démarrer l'an prochain, en mars 2015. L'organisation est en place, le choix des entreprises est en train de se faire. Mais on ne verra véritablement le début des travaux qu'en mars 2015. C'est un chantier qui va durer à peu près 2 ans.
D'accord. Autre grand chantier, celui de la dépollution de Hao, le projet de ferme aquacole, est-il cohérent avec ces travaux justement ?
Ah ben le Hao n'a rien à voir avec ce qui se passe au Mororoa pour le chantier Telsit, ça n'a absolument rien à voir.
Oui, mais vous n'avez pas terminé la dépollution,
la réhabilitation. Donc en ce qui concerne la réhabilitation de Hao, donc c'est en cours, 75% des parcelles ont déjà été rendues, et donc actuellement la nouveauté c'est bien évidemment l'arrivée du projet aquacole chinois. Et donc là-dedans, on va continuer à travailler avec la commune, avec le pays et probablement avec les investisseurs chinois.
C'est-à-dire sur quel plan avec les investisseurs
sur le plan technique. Sur le plan technique pour voir avec eux quelles sont les parcelles qu'il faut traiter en priorité.
D'accord. Et en arrivant en 2012, l'un des grands défis qui vous a été confié aussi, c'était de poursuivre la réduction des effectifs militaires. Mmh. Alors là encore, on en est où ?
Alors on en est actuellement à 1300 effectifs militaires et civils, puisque nous avons environ actuellement 300 personnels civils de recrutement local. On devrait arriver en 2020 à peu près 1100 personnels. Ce qui ne changera pas fondamentalement les missions. On est arrivé maintenant à, je dirais, un seuil. Les moyens vont rester. On va diminuer en personnel, on va rationaliser, on continue à se resserrer sur nos emprises, on rationalise les modes de travail, donc on essaye de fonctionner mieux avec le personnel que l'on a.
Mieux avec moins, donc les moyens seront suffisants pour assurer la surveillance du territoire et particulièrement de la ZEE, surtout que maintenant l'arrêt finnois, la vedette des douanes, n'a malheureusement plus en service.
Alors un COMSUP rêve toujours évidemment d'avoir plus de moyens. Bon, maintenant je peux vous dire qu'avec les moyens que l'on a, oui, on peut remplir nos missions, notamment la surveillance de la ZEE, puisque l'on sait, avec les patrouilles régulières que l'on fait avec nos avions de patrouille maritime, on sait que cette ZEE n'est pas pillée. Bon, cela dit, les flottilles de pêche sont effectivement aux abords de la ZEE. Donc on est en train de tester actuellement un système de surveillance satellitaire qui devrait, dans les années à venir, nous aider à avoir une meilleure connaissance et surtout de voir si on a besoin, dans les années qui viennent, de plus de moyens. Mais dans l'immédiat, pour le court terme et le moyen terme, les moyens que l'on a nous suffisent.
Alors vous parliez de la présence de la France dans le Pacifique avec des collaborations avec nos voisins, différents pays, entre autres les États-Unis, et pourtant une réduction de moyens. Comment on peut être efficace avec moins de moyens et avoir une bonne coopération avec les autres nations ?
Alors je crois surtout que la place de la France, c'est pas forcément les moyens. Effectivement, si on se compare au commandement américain, c'est 300 000 personnes. Donc il y a aucune commune mesure. Personne ne peut se comparer à eux dans la zone, si ce n'est peut-être nos camarades chinois. Bon, en ce qui nous concerne, c'est vraiment la place de la France. La France est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc si une crise survenait dans le Pacifique, elle y a des intérêts, il y a la Polynésie française, il y a la Nouvelle-Calédonie. Nous y avons des bateaux qui transitent tous les jours, que nous surveillons, dont nous surveillons en plus le transit. Nous sommes membres de la commission d'armistice en Corée. Donc nous sommes partie prenante à toutes les problématiques du Pacifique. Donc la France doit comprendre ses partenaires. Elle doit être prête à agir avec eux si besoin. Et bien évidemment, notre plus gros partenaire et allié dans la zone, bien sûr, ce sont les Américains.
Alors nous venons d'aborder avec vous le plan professionnel et à un niveau plus personnel. Comment avez-vous vécu votre séjour polynésien ?
Ah, ça restera une parenthèse. J'appelle ça une parenthèse magnifique, émerveillée. Alors, je ne suis pas naïve au point de dire que la Polynésie, c'est le paradis sur Terre. Hein. Il y a de grosses difficultés en Polynésie, tout le monde les connaît. Ce que j'ai trouvé en Polynésie, moi, ce sont les Polynésiens. Les îles, elles sont magnifiques, c'est vrai, mais j'ai vu également d'autres îles magnifiques de par le monde. Mais les Polynésiens, ça, j'ai jamais trouvé ça ailleurs. Cette chaleur humaine, cette ouverture d'esprit, le fait de, écoutez, je porte un uniforme, j'ai deux étoiles, mais ça ne fait aucune différence. Aucune différence. Et c'est ça que j'ai apprécié, cette simplicité et cette chaleur humaine qui va me manquer énormément. Énormément.
Ça risque effectivement d'être très différent. À Paris, vous êtes appelé à de nouvelles fonctions. Quelles fonctions on peut les savoir ?
Oui, bien sûr, je suis nommée chef des opérations de la marine.
Bien, bon courage pour la suite de votre carrière.
Si je peux me permettre de dire encore un petit mot.
Oui, je vous en prie.
J'ai justement une pensée pour les Polynésiens, puisque nous avons actuellement deux militaires polynésiens qui ont été blessés au Mali.
Oui.
Donc moi j'ai une petite pensée pour Teiva et pour Alex également, qui sont à l'hôpital Percy. Et je leur souhaite un très bon rétablissement et qu'ils sachent qu'ils seront accueillis ici et que les forces armées seront à leur côté.
Vous irez peut-être les voir une fois arrivés à Paris.
Mais écoutez, s'ils y sont encore, j'irai certainement les voir, oui.
Je vous remercie beaucoup, Anne Culler.